France Inter.
Aujourd'hui, Capitalisme, une histoire de la Terre, quatrième épisode, la fabrique des consommateurs, raconté par...
Dominique Méda, professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine, PSL, et présidente de l'Institut Veblen.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Pour s'attirer et conserver l'estime des hommes, il ne suffit pas de posséder simplement richesse ou pouvoir. Il faut encore les mettre en évidence, car c'est à l'évidence seule que valent l'estime. En mettant sa richesse bien en vue, non seulement on fait sentir son importance aux autres, non seulement on aiguise et on tient en éveil le sentiment qu'ils ont de cette importance, mais encore, chose à peine moins utile, on affermit et préserve toutes les raisons d'être satisfait de soi. Les sages ont toujours reconnu que deux choses sont absolument nécessaires à l'homme pour que sa vie soit digne: belle, voire même irréprochable, disposer d'un certain loisir et n'avoir aucun contact avec ces opérations industrielles qui servent aux usages immédiats de la vie quotidienne. En tout état de cause, le désir de richesse ne peut guère être assouvi chez quelque individu que ce soit. Quant à combler le désir moyen, le désir universel de richesse, il n'en saurait être question. On aurait beau distribuer avec largesse, égalité, justice, jamais aucun accroissement de la richesse sociale n'approche du point de rassasiement, tant il est vrai que le désir de tout un chacun est de l'emporter sur tous les autres par l'accumulation des biens. Si, comme on l'a parfois soutenu, l'aiguillon de l'accumulation était le besoin de moyens de subsistance ou de confort physique, alors on pourrait concevoir que les progrès de l'industrie satisfassent peu ou prou les besoins économiques collectifs, mais du fait que la lutte est en réalité une course à l'estime, à la comparaison provocante, il n'est pas d'aboutissement possible. Thorstein Veblen, théorie de la classe de loisirs, 1899. Bonjour Dominique Méda.
Bonjour.
Vous êtes notre invité aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre série sur le capitalisme, coécrite avec Lucie Sarfati. Thorstein Veblen, il est mort en 1929, il est peu connu en France et pourtant il donne son nom à l'institut que vous présidez, c'est oui. Dire... Qui était-il et en quoi est-il une figure importante dans cette histoire du capitalisme ?
Alors, c'était à la fois un sociologue et un économiste, donc américain, hein, mais ses parents venaient de Norvège. Alors, il a en effet pas eu un énorme succès à l'époque, et même aujourd'hui, je trouve qu'il est moins lu que d'autres sociologues ou d'autres économistes, alors qu'il écrit ce livre très très important, hein, 1899, vous l'avez dit, Théorie de la classe de loisirs, et donc c'est une critique extraordinaire, une des premières critiques, parce que Adam Smith avait déjà commencé dans le traité des... sentiments moraux, à expliquer pourquoi les gens consomment plus que de besoin. C'est parce que les pauvres veulent imiter les riches et les grands veulent montrer aux autres quelle est leur puissance. Donc Veblen lui pousse cette idée-là vraiment à fond, hein. Et donc ce qu'il montre, c'est que cette classe, en gros l'ancienne noblesse, l'aristocratie, la nouvelle bourgeoisie
américaine, donc là en l'occurrence
américaine, tout à fait, et alors il ne parle pas seulement de son époque, hein, il essaye d'étendre son propos à plus largement, mais donc il montre comment cette classe qui déteste le travail et ne veut surtout pas travailler, en fait va gaspiller du temps, donc du loisir, pour montrer combien elle est riche, puissante, et c'est lui qui va inventer cette expression de consommation ostentatoire. Et donc c'est un des premiers qui montre combien la consommation, vous l'avez dit dans ce très beau texte, hein, ne sert pas finalement à satisfaire des besoins, mais elle sert à montrer aux autres de quoi on est capable, elle sert à susciter l'admiration, ouais. Et elle sert aussi à s'affilier ou à se distinguer d'autres groupes. Et ça donnera Baudrillard, la société de consommation, en 1970, ouais, ou Bourdieu, la distinction.
Et c'est un concept qui n'a pas du tout vieilli, hein, puisque la consommation ostentatoire, on a tous quand même une réaction par rapport à ce terme.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, hein, le GIEC, pour la première fois, dans son dernier rapport, va reprendre cette expression de consommation ostentatoire et va dire que c'est ça le problème et qu'il faut qu'on arrive à se débarrasser de, en gros, de cet amour de se distinguer. Pourquoi ? Bah parce que c'est du mauvais infini. Parce que, comme le dira Baudrillard, si la consommation c'est un langage ou un système de signes, bah alors, en effet... Ça peut ne jamais s'arrêter.
Et c'est un puits sans fond avec évidemment ses conséquences pour l'environnement, on va en parler. On va revenir sur le fil de cette histoire que nous avons laissée à cette période très importante du 19e siècle, époque d'industrialisation massive de très nombreux secteurs, à la fois américains et européens. Et nous allons entrer avec vous dans le 20e siècle, Dominique Méda, avec quand même de nouveaux modèles d'organisation des entreprises qui vont changer la donne. On va parler de Fordisme et de Taylorisme.
Oui,
parce que ça,
fait.
C'est un incontournable aussi de cette histoire.
Absolument. Donc, si je comprends bien, on est au début du XXe siècle. Alors, au début du XXe siècle, c'est quand même une période de prospérité et de croissance. On sort de la Grande Dépression qui s'est arrêtée vers 1895. C'est aussi le moment où, en effet, les États-Unis vont un peu damer le pion à la France, qui va, pendant ces années-là, être repoussée du deuxième au quatrième rang des puissances industrielles. Et comme vous le disiez, il y a un certain nombre d'innovations technologiques et le taylorisme qui se transforme en quelque sorte en fordisme, donc standardisation des biens, production à grande échelle par Ford, qui en 1910 dans ses usines, à la fois va permettre de faire d'énormes gains de productivité avec le travail à la chaîne, et puis qui va aussi donner un salaire de $5 par jour à ses ouvriers pour leur permettre d'acheter ces fameuses voitures qu'il fabrique.
Un extrait à ce sujet d'un documentaire d'Arte sur le capitalisme américain, c'était en 2023.
C'est le développement de la voiture qui va pousser le capitalisme américain à une transformation décisive. Ce produit est pour l'instant fabriqué de manière artisanale et réservé à une clientèle très fortunée. L'entrepreneur Henry Ford va révolutionner l'industrie américaine en poussant la mécanisation des chaînes de production à un niveau inconnu jusqu'alors. La production de masse permet de diviser par deux le prix d'un modèle standardisé, la Ford T, un modèle unique, dupliqué à des millions d'exemplaires.
Le travail à la chaîne, popularisé donc par Henry Ford, avec évidemment les conditions de travail des ouvriers qui vont beaucoup changer aussi à ce moment-là.
Oui, alors c'est différent aux États-Unis et en France. Les États-Unis sont plus avancés, je dirais, et en même temps, c'est eux quand même qui inventent ce travail à la chaîne. Et en France, on est dans un moment assez particulier où on a essayé de faire passer des lois sociales, mais c'est pas encore terrible. On aura le repos hebdomadaire en 1906, le code du travail en 1910, et puis la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Mais franchement, on a une classe ouvrière qui est très très misérable. Alors on a une augmentation du nombre d'ouvriers. On a encore une France quand même très, très rurale et les ouvriers restent encore dans les premières 10 années du XXe siècle dans des petites entreprises. Et c'est ça qui va changer en France. En France, après la Première Guerre mondiale, en fait.
Qu'est-ce qui distingue, si on reste un peu aux États-Unis, le fordisme du taylorisme, Dominique Méda?
Le taylorisme, c'est comment dirais-je, une réflexion un peu théorique, sur l'organisation scientifique du travail. Donc, où il y a des bureaux des études qui doivent déterminer un certain nombre de choses. Et puis Ford, c'est celui qui met en œuvre.
Donc, on a la théorie et la pratique.
Exactement.
Clairement.
Exactement.
Donc, la production, à ce moment-là, ça devient vraiment le cœur de la société. C'est-à-dire, c'est l'objectif, c'est produire, produire, produire.
Oui, c'est-à-dire que on a en effet des innovations technologiques dont les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie vont s'emparer pour faire du profit, évidemment. Mm-hmm. Parce que, alors, c'est un moment où il y a, aux États-Unis et en France, beaucoup de croissance, multiplication de la production industrielle. Et en effet, cette production de masse, il faut bien pouvoir l'écouler. Et c'est ce qui va... On va donc essayer de développer la consommation de masse parce qu'il faut, fourguer tous ces produits.
Comment ils s'y prennent, justement, les entrepreneurs à ce moment-là pour qu'il y ait, en bout de chaîne, évidemment, des gens pour acheter leur production?
Alors, plein de moyens. Le moyen qu'a trouvé Ford, c'est d'augmenter donc les salaires pour qu'une partie de la population puisse s'acheter ces voitures. Et puis, le prix, comme on fait d'énormes économies d'échelle et des très gros gains de productivité, les prix vont baisser. Mmh. Mais on a aussi, c'est aussi le début de la publicité, hein, où on commence, en effet, à avoir des affiches, de la publicité dans les journaux pour que les gens soient, aient envie d'acheter ces produits.
Ouais. Et là, on est vraiment sur l'individu. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un changement, au fond, de cette époque. C'est-à-dire que la consommation, elle va toucher et s'adresser à l'individu. On reste quand même dans quelque chose de collectivement très important.
Bah, comment dire, je pense qu'il faut plus raisonner en termes de classe sociale. C'est-à-dire, il y a des classes sociales, la bourgeoisie, qui commence à pouvoir accéder à tout ça. Et c'est une sorte de système, quand même. Oui. Et puis, on a des classes sociales qui en restent quand même largement, notamment en France, exclues, avec toute la population rurale et les ouvriers qui n'ont pas les moyens d'accéder à la consommation de masse. Même si c'est une époque où on commence à voir des changements, par exemple, dans l'alimentation. On va consommer un peu plus de viande, on va commencer à consommer du café, du cacao, mais là encore avec de très grosses différences sociales.
La publicité, donc vous l'avez dit, Dominique Méda, va devenir un outil puissant pour influencer finalement les désirs des consommateurs. Et on va écouter pour ça une publicité des années 60. Écoutez-la bien, elle vaut son pesant de cacahuètes.
Mais enfin Pierre, où est donc ta femme?
Elle fait la vaisselle.
Eh oui.
Mais voyons, où est donc leur mère?
Elle fait la vaisselle.
Pour la dernière fois, car nous avons acheté une machine à faire la vaisselle Philips entièrement automatique.
Et maintenant, je peux m'occuper de mes enfants. J'aide mon mari dans son travail. Et je suis là quand nous recevons nos amis.
Pendant ce temps, Philips lave, rince et sèche la vaisselle. Votre vaisselle est sèche, brillante, parfaitement propre. Achetez Philips, c'est plus sûr.
Voilà, Dominique. Oui, c'est un peu l'effet que ça nous a fait en écoutant cette publicité.
C'est magnifique.
Ça raconte beaucoup de choses quand même.
Absolument.
Donc, sous couvert de libérer, au fond, la femme, on voit qu'elle se paye toutes les autres tâches de la maison.
Exactement. C'est comme la fameuse complainte du progrès de Boris Vian, hein, ouais. Donc 1956 en France, où en effet, on promet monts aux merveilles, et merveilles aux femmes, mais en même temps, l'égalité homme-femme ne progresse pas tellement à ce moment-là. C'est en effet, vous avez raison, hein, d'en venir aux années 60, parce que c'est à ce moment-là, autant c'est dans l'entre-deux-guerres que ça se développe pas mal aux États-Unis, mais ça va pleinement atteindre son acmé, en quelque sorte, dans les fameuses années 60, les 30 glorieuses en France, que décrit magnifiquement Fourastier.
C'est et lui puis, qui invente le terme des 30 glorieuses?
Oui, hein, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc c'est le titre de son livre, ouais, qu'il publie en 1979.
Et donc, alors donc, ça exprime quelle décennie, très exactement?
Alors, 46-75, ouais. C'est lui qui invente donc le terme, et donc le titre du livre, c'est « Les 30 glorieuses ou la révolution invisible ». Ouais. Et c'est extraordinaire ce livre, il faut vraiment le relire aujourd'hui, parce qu'en en fait, il compare deux villages, Madère et Sézac, et il montre que l'un est complètement sous-développé, il faut 8 heures pour acheter un poulet, etc. Et puis Sézac, plein développement économique, modernité, c'est formidable, la population est quasiment plus agricole, il faut 45 minutes pour acheter un poulet, etc. Et en fait, c'est le même village d'Ouel en 46 et en 75.
Donc, c'est une vraie révolution qui a fait exploser le niveau de vie. Tout le monde, évidemment, a envie d'en bénéficier, mais à quel prix pour la planète? C'est ce que nous verrons dans un instant avec la suite de cette série sur le capitalisme. Dominique Méda, et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr et sur la page de l'émission. À tout de suite.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Lorsqu'ils font leurs courses, les Américains ont pour habitude de donner leur liste à l'épicier, lequel s'occupe lui-même des produits. L'épicier, Clarence Saunders, invente alors un nouveau concept qu'il nomme Piggly Wiggly. Chez Piggly Wiggly, magasin ouvert à Memphis, Tennessee, le client parcourt librement les rayons et remplit lui-même son panier avant de s'arrêter en caisse. Désormais livré à lui-même, le client se laisse toujours aller à des achats d'impulsion. L'épicier Clarence Saunders a inventé la grande distribution.
Arte, capitalisme américain. Alors, c'était pour le plaisir de réécouter cette archive, parce que effectivement, ce tout premier magasin libre-service de l'histoire, il est né en 1916 dans le Tennessee. Ouais. Et c'est vraiment, Dominique Méda, la racine de ce que vous nous racontiez tout à l'heure sur les 30 Glorieuses aussi, finalement. On est dans cette dynamique-là. Hein.
C'est ça, c'est l'idée que il faut augmenter les satisfactions que l'on tire du fait d'avoir le choix, d'abord, de pouvoir s'approprier des produits de plus en plus variés, de plus en plus nombreux. Et ça, d'une certaine manière, ça fait partie de l'homme moderne, quoi, en réalité. Cette énorme... Ce qui est considéré comme une liberté, la liberté de choisir.
Donc, les 30 Glorieuses, c'est bien après, évidemment, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Vous qui avez étudié aussi ces 30 Glorieuses avec cette surproduction, la consommation, tout ça a fait exploser, évidemment, le niveau de vie dans les pays occidentaux. Mais à quel prix ? Pour la planète. Et là, on est au cœur de notre série, justement.
Absolument. En fait, on n'y pense pas beaucoup au début. Alors, il y a des affaires de smog à Londres, de pollution industrielle, etc. Le moment important, c'est 1962, avec Rachel Carson, Silent Spring, qui montre...
silencieux.
Oui, qui montre l'impact de l'usage des pesticides sur les oiseaux, sur la biodiversité. Ensuite, c'est le très, très important rapport des Meadows, Limits to Growth, les limites à la croissance, qui est comme un coup de tonnerre, hein, parce que ce qu'explique ce rapport des Meadows, c'est que si on continue comme ça, à avoir des taux de croissance pareils, à produire et consommer autant, alors on va à l'effondrement. Et ce qu'il montre, c'est que si on fait ce business as usual, eh bien, avant la fin du XXIe siècle, ce sera l'effondrement.
C'est ça. Et il faut rappeler que c'est en 1972, comme vous l'avez dit, Dominique Méda.
1972.
Donc ça fait quand même un paquet de décennies.
Absolument.
Où tout était écrit, finalement, sur le papier.
Tout était écrit. Et alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que le rapport va avoir une énorme audience, c'est-à-dire ça fait une prise de conscience vraiment général dans le monde entier. Mais, pourquoi il ne se passe rien ? Parce qu'on va avoir des gens qui s'opposent à ce rapport, notamment un économiste très connu, hein, William Nordhaus, celui qui aura le prix Nobel précisément pour ses travaux sur le climat en 2018, qui dit, mais attendez, ce rapport ne vaut rien du tout, ne vous inquiétez pas, il se passera peut-être des choses dans très très longtemps, mais il n'y a pas de problème.
Quel visionnaire !
Absolument. Et en revanche, il y a un homme politique qui s'empare de cela. C'est quelqu'un, c'est le vice-président de la Commission européenne, qui, pendant les vacances de Noël, en 71, a pu lire les bonnes pages du rapport Meadows. Et alors, il est complètement bouleversé. Je crois qu'on peut dire qu'il opère une forme de conversion.
Comment il s'appelle, ce monsieur ?
Donc, Sico Mansholt. Et Sico Mansholt, c'est un socialiste néerlandais qui est dans les instances dans la Commission européenne depuis 1958. Donc, il a tout vu, tout connu. Il a fait des plans hyper productivistes pour l'agriculture.
Oui, c'est ça. Il était pro, finalement, à l'agriculture intensive. Quoi,
absolument. C'était plutôt un méchant, oui. Et il lit ses bonnes feuilles. Il est bouleversé. Et il écrit une lettre au président de la Commission européenne, son collègue, donc, pour lui expliquer qu'il faut absolument organiser la bifurcation écologique de l'Europe tout de suite. Seule l'Europe, dit-il, est en mesure de faire cela. Et donc, c'est très court, c'est un programme de bifurcation écologique dont on pourrait s'emparer aujourd'hui.
Ouais, ce qui a été republié d'ailleurs, hein, vous
tout
en avez signé la préface de Dominique Méda, donc on peut trouver ce petit texte, hein, il fait une quarantaine de pages.
À peine. Et parce qu'on a mis aussi les réactions à l'époque, parce que les réactions à l'époque sont merveilleuses, puisque la lettre fuite, malheureusement. C'est Georges Marchais qui s'en empare, et qui s'en empare pour appeler à voter non au référendum qui est proposé en France en 72 sur l'entrée de 4 nouveaux pays dans l'Union européenne. Et Georges Marchais, d'ailleurs un peu comme comme William Nordhaus, dit « Mais regardez, on nous propose l'appauvrissement de l'Europe, on nous propose une réduction du revenu, et donc il n'en est pas question.
Ouais, » La question du récit, elle est importante aussi, hein, sur le narratif, évidemment. Absolument. Autour de cette période. On va écouter un petit extrait de l'ORTF de 1972 pour se remettre dans l'esprit de ce rapport Meadows.
Faut-il avoir peur de la croissance économique ? Cette question, elle traduit une inquiétude qui se manifeste à travers le monde et notamment le monde industriel depuis au moins 2 ans. Et je crois qu'il faut dire un mot du rapport qui a été rédigé par un organisme dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le Club de Rome. Grosso modo, l'idée centrale du rapport est que, contrairement à ce que l'on a pu penser jusqu'à présent, la Terre est limitée.
Voilà, elle est limitée et c'est presque une surprise. 1972.
Mais c'est merveilleux de dire, contrairement à tout ce qu'on a pu penser jusqu'à maintenant.
C'est intéressant d'ailleurs,
ouais, hein,
cette façon de voir les choses, parce que tout est écrit évidemment.
Ouais.
Donc ça bouleverse un petit peu tout le monde et y a une sorte de déni qui se met en place quand même tout de suite. Hein.
Tout à fait. Et ce qui est passionnant, hein, c'est cette notion de limite. Il y a des limites, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas continuer à produire et consommer. Comme ça, il se passe des choses, il y a des impacts sur la Terre, des impacts sur les ressources renouvelables. Et vous savez que, beaucoup plus récemment, hein, c'est cette même notion de limite planétaire qu'on réutilisera. Donc c'est vraiment c'est très intéressant, tout est là en quelque sorte. Hein.
Est-ce que ce rapport Mido, c'est avant tout une critique du capitalisme ou il faut le voir différemment quand même?
Oui, ça l'est, même si je ne connais pas les options idéologiques de ceux qui l'ont écrit. Ce sont des ingénieurs, hein, donc ils construisent un modèle. Mm-hmm. Et c'est pas, je ne crois pas qu'on puisse les présenter comme de méchants révolutionnaires qui essayent d'embarquer la population. Non, ils montrent objectivement, le plus objectivement possible, ce qui risque de se passer, notamment si on continue à utiliser de façon folle les ressources renouvelables. Et ils disent en gros qu'on risque d'avoir des famines, des pollutions extrêmes. Et donc c'est un modèle en fait physico-social.
Ouais. Quand on lit d'ailleurs cette lettre de Sico Mansholt, on voit que la question démographique, elle est aussi au cœur des préoccupations quand même à l'époque.
Oui,
hein.
Oui, et c'est aussi ce qu'on a critiqué dans le rapport Meadows, hein, c'est-à-dire que les Meadows disaient oh là là, la population est en train de beaucoup trop augmenter, il faut mettre un coup d'arrêt à cette croissance de la population. Et c'est aussi ce qui a servi à ne pas regarder le reste de leur proposition, ouais, en quelque
puisque,
sorte.
Puisque, effectivement, vous le dites, rien ne s'est passé réellement.
Quand on regarde
les choses a posteriori, on a quasiment perdu 50 ans.
On a perdu 50 ans. Et ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est qu'il rentre vraiment dans les détails, Mansholt. Il dit, voilà comment on va procéder, en fait. Il va falloir une planification européenne et une planification nationale. Il faut, alors il parle de croissance zéro, c'est ça qui fait peur un peu à tout le monde, et même de croissance négative.
Ouais.
Mais il dit quelque chose qui est passionnant, il dit il faut baisser notre consommation matérielle, mais il faut augmenter notre consommation immatérielle. Ça veut dire qu'il a compris la puissance d'attraction de la consommation. Et c'est quoi la consommation immatérielle? C'est des loisirs, des équipements collectifs, de la prévoyance sociale, des services publics. C'est génial.
C'est le vivre ensemble, au fond, aussi.
Oui, ouais. Et puis c'est par exemple, au lieu que chacun et sa petite piscine, on va ouvrir des piscines municipales, on va ouvrir des équipements sportifs et voilà comment on va pouvoir en effet faire décroître notre consommation individualiste matérielle.
Est-ce qu'on peut dire quand même qu'à ce moment-là, Dominique Méda, c'est la première fois que les questions environnementales sont vraiment reconnues comme un enjeu mondial? C'est-à-dire que là, on parle de cela à l'échelle globale de la planète.
Oui, sauf qu'on n'a pas encore l'organisation qui va le permettre. Ce qui va le permettre, c'est la fameuse conférence de Stockholm, hein, en 1972, où là, alors c'est l'ONU qui a décidé de se saisir de ces questions dans les années à partir de 68. La Suède, c'est la Suède en fait qui attire l'attention parce qu'elle est abîmée par des pluies acides qui viennent des fumées industrielles. Et donc la Suède va réussir à attirer tellement l'attention que l'ONU s'en empare et qu'en 72, donc, on a cette fameuse conférence de Stockholm sur l'environnement qui va aboutir à une grande déclaration, un plan d'action, et c'est un moment très important.
Oui, beaucoup de plans d'action depuis cette époque, malheureusement. Parce que quand on voit que tout est écrit, hein, pour ceux qui manqueraient d'idées aujourd'hui, il suffit de lire le rapport Meadows ou Mansholt, et il y a tout.
Absolument. Hein. Et je dirais même que...
Pour reconstruire aussi une Europe qui soit à la hauteur des défis.
Et,
hein.
Exactement. Et je dirais même que Mansholt va un peu plus loin parce qu'il explique comment il va falloir que les pays les plus riches s'occupe d'aider les pays les plus pauvres à s'en sortir.
Voilà, et on est toujours en train de se poser les mêmes questions aujourd'hui pour essayer de quantifier aussi financièrement comment on pourrait justement aider ces pays. Les alertes des scientifiques retombent donc comme un soufflet. Le néolibéralisme, Dominique Méda, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qui est libéré dans cette affaire?
Alors, le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que l'État ne doit pas intervenir directement dans l'organisation de la vie économique et sociale, parce qu'il fait toujours plus mal que le marché, il faut donc laisser le marché s'en occuper. Et en même temps, l'État a un rôle fondamental, c'est de garantir que les règles qui permettent la libre concurrence sur le marché, oui, seront bien en place. Mais, et là on peut se reporter à un auteur comme Polanyi par exemple, hein, le marché autorégulateur et puis plus tard le marché non limité en quelque sorte, bah, ça amène à des catastrophes, hein, tant environnementales que sociales, bien sûr.
Et puis il y a aussi cette idée que l'humain est toujours au-dessus de tout et que matériellement, de toute façon, on va pouvoir résoudre tous les problèmes avec le technosolutionnisme face à l'environnement par exemple. On, ouais, aura toujours des réponses.
Hein. Absolument. Bah, par exemple, c'est exactement ce sur quoi s'appuie William Nordhaus. Il pense que le génie humain est tel que, en fait, toute l'accumulation de capital humain va nous permettre de construire un monde, je dirais, artificiel, qui nous donnera les mêmes doses de satisfaction que le monde matériel.
Dominique Méda, on va voir avec vous quelles sont les leçons à tirer de ce rendez-vous manqué, hein, de cette année 72. Et puis pour parler bien sûr du présent, en répondant aux questions et aux messages qui arrivent sur le site de l'émission sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Dans un contexte de croissance à tout prix, on encourage de facto le n'importe quoi. Je pense que les priorités actuelles sont tout autres. Et je crois que dans cette redéfinition de leur base d'activité, cette notion de responsabilité sociale de l'entreprise est capitale. Elle implique, entre autres, à mon avis, ce triple respect que sont le respect des forces de travail, toute la politique sociale, le respect du consommateur et le respect de l'environnement. C'est tout le problème de la lutte anti-pollution.
La voix du sociologue Jean Baudrillard en 1975, Dominique Méda, on poursuit avec vous notre cheminement sur les routes du capitalisme. Et un commentaire peut-être sur ce que vient de dire Jean Baudrillard au sujet de la RSE des entreprises.
Passionnant.
Ça, c'est étonnant, parce que est-ce que c'est à la hauteur justement de ce que devraient proposer les entreprises aujourd'hui ?
Alors d'abord, on a mis un temps fou à...
Sur la responsabilité sociale.
C'est ça,
hein.
Acclimater cette idée de responsabilité sociale des entreprises. On a eu à lutter contre des personnages qui pensaient, je pense à Friedman, hein, qui pensaient que la seule responsabilité des entreprises, c'est de faire du profit. Donc, c'est un nouveau mouvement. Après, on a eu notamment au niveau européen, hein, enfin, d'abord au niveau français, la loi sur le devoir de vigilance. Mmh. Après, au niveau européen, tout un arsenal avec le Green Deal, le pacte vert. Hein, on vient de s'apercevoir, là, enfin, ce qui vient d'arriver il y a quelques semaines, hein, c'est la fin brutale de tout cet arsenal, devoir de vigilance, CSRD, hein, le fait de mettre en évidence comment l'entreprise abîme ou pas, d'ailleurs, ou améliore son environnement, et d'un trait de plume, cause de cette nouvelle obsession pour la compétitivité de l'Europe, on a décidé donc de mettre un énorme bémol sur, ouais, l'ensemble de ces dispositifs.
C'est reparti pour un tour, ou est-ce que c'est d'une certaine manière le champ du cygne quand même d'un système qui est un peu à bout de souffle, selon vous ?
Ça, c'est une question.
Merci d'y répondre.
un petit peu difficile. Ce qu'on peut dire de certains, c'est que les dégradations et les catastrophes climatiques continuent. Je pense à un climatologue que je suis un peu, qui me paraît très très important et intéressant, qui s'appelle Tim Lenton, qui attire l'attention sur le fait, et d'ailleurs plusieurs climatologues en ce moment attirent l'attention sur le fait que le climat se dégrade de plus en plus, et donc on n'aurait pas du tout intérêt à abandonner tous ces dispositifs essentiels. Mais
pourtant, on est toujours dans le même modèle productiviste.
Absolument, parce que c'est très difficile de s'en passer. C'est très difficile d'expliquer aux personnes pourquoi on ne va pas continuer à améliorer leurs conditions de vie.
Pourquoi les écologistes eux-mêmes ont échoué à faire changer les choses, Dominique Méda ?
Mais parce que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est peut-être vrai, c'est qu'ils ont fait peur ou alors ils n'ont pas fait envie que parler de sobriété, de limite, peut apparaître à certains comme liberticide. Peut-être qu'on aurait en effet intérêt aujourd'hui à mettre plus l'accent sur le côté désirable des changements. Hein. Moi, c'est ce que j'essaie de...
C'est un ouvrage, hein, que vous avez publié ces dernières semaines chez Flammarion,
oui.
Une société désirable.
Oui, oui.
Ça, c'est la nécessité d'avoir des récits plus convaincant au fond.
Je pense qu'il faut absolument montrer aux gens pourquoi ça sera mieux après. Pourquoi, si on s'engage dans cette transition écologique, pour eux-mêmes, ils pourront en retirer des avantages en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière même, je dirais, de beauté, de lien social.
De bien-être.
De bien-être, mais aussi en matière, je dirais, c'est ça que j'essaie de montrer dans ce livre, en matière d'emploi et de travail. C'est-à-dire, je me dis que si on était très très intelligent, on pourrait réorienter notre modèle pour que cette transition écologique, elle nous permette à la fois de créer de nombreux emplois et peut-être de sortir de la crise du travail française, qui est très très importante.
C'est ça, elle est réelle. Et en même temps, on dit que les Français n'ont pas envie de travailler, sauf que la réalité est tout autre chose. Hein. Vous montrez bien, il y a des études scientifiques totalement établies sur ces questions-là.
Bien sûr.
Et qui montrent, par contre, une vraie souffrance au travail.
C'est-à-dire, il y a à la fois des attentes immenses qui sont placées sur le travail, notamment chez les jeunes. Hein. Alors, on dit aujourd'hui vraiment que les jeunes ne veulent plus travailler, ils sont paresseux, ils sont matérialistes, etc. C'est complètement faux. Par exemple, dans la dernière enquête sur les valeurs des Européens, il y a 81% des jeunes, donc plus que les autres, qui répondent que pour eux, le travail, c'est ce qu'ils apprécient dans le travail, c'est de pouvoir réussir quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle des attentes un peu post-matérialistes, plus encore qu'avoir...
Donner du sens aux choses.
Exactement.
Hein. Ça revient souvent dans les enquêtes. Hein.
Donc voilà, des attentes immenses, mais qui viennent en quelque sorte se fracasser hein, sur la réalité des conditions d'exercice du travail.
Ce terme de décroissance, ça a été contre-productif, selon vous, pour mobiliser, précisément ?
Moi, je l'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé que ça faisait peur aux personnes qui n'avaient pas assez pour vivre. Mmh. Et donc, alors avec mes collègues, on parle de post-croissance. Je ne suis pas sûre que ça soit mieux. Hein, voilà. Donc, en effet, il faut qu'on travaille sur les mots.
Justement, dans plusieurs de vos ouvrages, vous êtes revenu sur l'idée selon laquelle la croissance économique était nécessaire au progrès humain, le PIB vu comme l'indicateur central du progrès. Ça aussi, c'est une erreur selon vous ?
Non, bah, c'est pas une erreur, mais je crois que c'est intéressant de rappeler que c'est exactement au moment même où la consommation de masse explose, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, qu'on crée cet indicateur hein, qui va devenir universel, c'est-à-dire aujourd'hui tout le monde doit calculer le PIB de la même manière, parce que ça veut dire à la fois qu'on veut mesurer les progrès de la production, mais on veut aussi les guider, les obtenir.
Mais le bon indicateur, il devrait prendre en compte quoi alors,
je pense que le bon indicateur, il faut qu'on conserve le PIB parce qu'il est très, très utile, mais il faudrait qu'on l'enserre en quelque sorte, qu'on l'encadre, qu'on le limite dans deux autres indicateurs. Un indicateur physique, l'empreinte carbone, on sait très bien la calculer, d'ailleurs l'INSEE vient de la sortir en tant qu'indicateur. Et puis l'indice de santé sociale, qui est un indice qui a été calculé par ma collègue Florence Janicatrice, et qui est un indicateur de cohésion sociale. Donc voilà, comment limiter la production, comment la garder dans des limites physiques et sociales.
Il y a aussi une grande bataille culturelle, Dominique Méda, sur notre rapport à la consommation, puisque c'est le thème de cet épisode aujourd'hui.
Ah bah, évidemment, c'est central. Hein. Et c'est aussi pour ça, hein, toutes les oppositions aux États-Unis, William Nordos et tous les autres, c'est l'idée que le niveau de vie n'est pas négociable. Alors, Reagan le dira, hein, le niveau de vie des Américains n'est pas négociable, mais on sait bien qu'en France, aujourd'hui, rares sont les politiques qui vont proposer une baisse de la croissance, une baisse du niveau de vie.
On va passer aux questions qui sont pour vous, Dominique Méda, sur le site de l'émission. Gilles demande, comment peut-on établir un équilibre parfait entre l'offre et la demande sans créer soit de la pénurie, soit de la surproduction ?
Oh là là, mais Gilles...
Amusez-vous avec cette question.
C'est très compliqué cette question. Je ne crois pas qu'on puisse créer un équilibre parfait. En revanche, je pense qu'il y a un rôle central de l'État hein, dans l'orientation de la production, à la fois dans des écologiques et sociales, et dans le fait d'orienter la production vers la satisfaction des besoins essentiels. Alors, je ne suis pas en train de revenir, peut-être que Gilles va me dire que je reviens à l'Union soviétique, c'est pas du tout ce que je pense, mais je pense qu'il y a une planification nécessaire, des orientations, des labels, des incitations.
Roman demande, est-ce qu'il y a un modèle pensé aujourd'hui par des théoriciens qui imaginent comment nous pourrions sortir de ce modèle de consommation de masse ?
Bah oui, alors par exemple, il y a notre ami Mansholt. Hein,
c'est pas des...
Ah bah...
C'est pas des jeunes.
Enfin, mais ça fait rien. Non mais, cher...
Aujourd'hui, elle demande aujourd'hui des théoriciens actuellement.
Oui, bah, y a beaucoup de travaux. Par exemple, je pense à Razmig Kechoyan qui écrit sur les besoins artificiels.
On l'a perçu à ce micro.
Donc Agnès Heller, beaucoup de théoriciens. Voilà, réfléchir sur la manière dont on peut délibérer ensemble sur les besoins.
Thierry vous demande quelles seraient les conséquences d'un arrêt brutal de la consommation pour rapidement sauver la planète. Est-ce que cet arrêt ne fait pas peur aux politiques qui préfèrent finalement jouer à la roulette russe.
Non, mais bien sûr, ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur non
pas
seulement
aux politiques d'ailleurs,
aux politiques,
hein, à la société fait, aussi.
Évidemment, hein. Parce que si ça faisait pas peur à la société, les politiques embrayeraient tranquillement. Hein. Et d'ailleurs, je pense pas que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut pas un arrêt brutal, ni de la croissance, ni de la consommation. Et il faut évidemment planifier ça sur de nombreuses années.
Marc demande, est-ce qu'on peut pas dire que l'individualisme est devenu de l'égoïsme, que le capitalisme met en avant les pires valeurs aujourd'hui?
Je serais assez d'accord pour dire ça.
Bon, ok. Théodule, comment imaginer qu'une production écologique puisse concurrencer une production maximisant les revenus capitalistes?
C'est très très compliqué. Il faut absolument, là encore, hein, pardonnez-moi de m'en référer toujours à l'État, mais je pense qu'il faut que l'État donne des signaux. Je donne juste un tout petit exemple. La voiture. On a des constructeurs qui construisent d'énormes SUV qui coûtent très cher, personne ne peut se les acheter, ils sont très lourds, c'est l'horreur. Il y a un rapport récent du GERPISA, un institut de recherche sur l'automobile, qui vient de montrer qu'on pouvait construire en France un petit véhicule électrique pas cher, accessible à tous. C'est génial, ça.
Et puis enfin, Victoria...
Mais il faut, pardonnez-moi, pour ça, il faut un label écologique qui permette que ces productions-là soient repérées et plus aidées que les autres.
Et un vrai label, digne de ce nom, hein, parce que des labels, il y en a pléthore.
Absolument. Hein.
Victoria demande, peut-on encore dire que les centres commerciaux sont des lieux de socialisation?
C'est peut-être des lieux de loisirs, hein, mais je ne suis pas sûre que ça soit une socialisation très très intéressante.
Eh bien, nous allons terminer avec votre soupir, Dominique Méda, et je renvoie sur votre livre « Une société désirable, comment prendre soin du monde » chez Flammarion, dans lequel vous exploitez trois voies de sortie aux grandes crises, hein, la crise du travail, la crise de l'État-providence, la crise de l'écologie. Merci beaucoup à Lucie Sarfati qui a préparé ce quatrième épisode de notre série.
Merci à
Dominique Méda.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.